Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. « Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus reprit la parole, « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Acclamons la parole de Dieu.
En ce matin, dans la première lecture, il est question du grand prophète Élie. Je dirais que c'est le grand champion de la foi, un peu comme ses fils du tonnerre. Et nous savons, juste avant ce passage, Élie vient de tuer des prêtres païens, avec toute sa fougue. Et c'est pour ça que la reine Jézabel cherche à le faire mourir. Ce même Élie, nous le découvrons aujourd'hui, et un peu pour la première fois dans son histoire, faible, découragé. Lui qui est l'homme fort dans l'Ancien Testament, on va le découvrir même peureux, peur de cette Jézabel, et complètement affaibli et découragé. Il va se réfugier dans le désert, il est fatigué, il a faim. Il désire même mourir. C'est quand même étonnant, cet homme plein de vie qui désire mourir. Et il s'endort. Et d'une certaine manière, pour la première fois, il s'abandonne dans le désert entre les mains de Dieu. Et juste avant de s'endormir, Dieu va le visiter. Et j'aime beaucoup cette belle phrase, cette belle prière qui jaillit. C'est une première prière qui jaillit du cœur de Élie, qui est superbe. « C'en est assez, Seigneur, c'en est assez, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »« C'en est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors que bien souvent, avant cette expérience, il se sentait vraiment le grand prophète qui réussissait dans tous ses grands exploits. Et là, pour la première fois, il est devant une impasse. Et il arrive à prier, à crier vers son Seigneur en disant « Oui, je ne suis pas meilleur que les autres. » Une très grande étape dans la vie de Élie. Une grande étape que nous devons tous un jour ou l'autre passer. Vous voyez, parce que bien souvent nous croyons être les meilleurs. Nous croyons toujours avoir raison. Même avec un Dieu qui est avec nous, alors on prie. Bon, alors chaque fois quand il exauce notre prière, nous croyons qu'il était avec nous. Pas forcément. Il y a une expérience de Dieu à faire au cœur même de notre vulnérabilité. Et ça, c'est là, le prophète Élie en fait une très grande expérience. Il éprouve une vulnérabilité. Il fait, on peut dire, une expérience non d'un Dieu tout-puissant, guerrier, qui va jusqu'à, avec lui, entre guillemets, tuer ses ennemis, mais un Dieu de compassion, un Dieu qui rejoint l'homme dans sa vulnérabilité au cœur du désert, à une seule condition, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas les meilleurs, que je ne suis pas le meilleur. C'est toute la grâce de l'humilité. Alors nous avons tous aussi dans notre vie des moments de découragement, qui n'y en a pas. Il nous arrive d'être aussi poursuivis par des reines Jézabel, le mal, quelqu'un qui veut nous détruire, ça peut être une maladie, ça peut être une angoisse, quelqu'un qui me poursuit. Quelle que soit notre responsabilité, on peut demander aujourd'hui à Élie de cette grâce, de remettre à Dieu toute notre vie jusqu'à là. Ne pas accuser d'abord les autres, ne pas accuser Jézabel ou les autres, mais entrer en soi et reconnaître que je suis responsable aussi du mal et que je peux redonner à Dieu ma vulnérabilité et laisser éclater en moi cette toute-puissance au cœur, au creux de ma faiblesse. C'est pas facile, mais il y a là une sagesse qui préfigure déjà la sagesse chrétienne. Alors, regardez comment Élie va être fortifié par Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, c'est très beau, le symbole. Il ne va pas envoyer un animal égorgé. Vous voyez, avec un rite juif, il aurait pu le faire pour le soutenir dans sa faim et dans son épreuve. Il aurait pu lui offrir des fruits à valeur hautement énergétique, vous voyez, des bonnes figues, des grappes de raisin. Voilà, il serait bien reparti, quoi. Non. Il aurait pu le faire, mais il prend du pain. Le pain. Et c'est pas pour rien que le Seigneur va prendre du pain. Bien sûr, ça préfigure l'Eucharistie. Mais déjà, c'est une pédagogie divine pour nous faire comprendre que le pain est le signe par excellence de notre propre histoire. C'est l'histoire qui a commencé par un laboureur. Bien sûr, la graine a été donnée par Dieu, mais il faut un laboureur, il faut semer, il faut moissonner, il faut fabriquer des machines pour faire, pour broyer le pain, pour en faire de la farine, pour concevoir un four, pour le boulanger. Enfin, le pain s'inscrit dans l'histoire de l'homme. C'est très important. Le pain, c'est tout le travail de l'homme, c'est tout notre travail. C'est le fruit de notre travail, c'est toute notre vie. Alors, par ce geste, Dieu va nous faire comprendre justement qu'il se fait nourriture en communion à notre travail. C'est cette communion entre son travail, le don de lui-même et notre travail, où jaillit en fait une fécondité. C'est marcher ensemble. J'aime beaucoup cette histoire d'un prêtre qui est racontée par un prêtre libanais, qui explique un peu, qui illustre un petit peu ce que je désire vous partager ce matin. C'était une maman très pauvre au Liban qui devait courageusement travailler dans sa famille, elle avait beaucoup de travail, son mari l'avait quittée, et elle s'est dit que chaque fois que je vais faire quelque chose avec amour ou quelque chose qui me coûte, où je vais essayer de mettre de l'amour, faire son ménage, prier, faire sa cuisine, repasser linge, peut-être ne pas se mettre en colère, visiter une personne malade, à chaque fois, elle mettait une petite graine dans un bocal. Comme une offrande faite à Dieu. Et elle avait un fils qui désirait être prêtre. Et elle faisait ce geste pour que son fils puisse être fidèle à sa vocation et puisse être fidèle et puisse être devenir un saint prêtre. Et la veille de son ordination, elle se mit à moudre tous ses grains. Il y avait pas mal de grains qu'elle a pu offrir au Seigneur. Elle en fait de la farine, elle en fait une pâte, et elle le cuit, et en fait des hosties, pour que son fils puisse l'offrir à sa première messe. Je trouve que c'est un merveilleux symbole, de voir comment ce pain de vie, ce pain du ciel, vient nous rejoindre dans notre quotidien pour le transformer de nouveau en une vie éternelle, en une Eucharistie, en corps et en sang du Christ. Dans ce sens-là, vous voyez, la deuxième lecture, c'est tout à fait cet amour au quotidien qui nous a invités. C'est là où le pain de vie nous rejoint. Et Élie a reçu ce pain de l'ange juste avant de s'endormir, c'est parce que Dieu voulait le toucher concrètement dans son histoire à lui, dans sa pauvreté, dans ce qu'il était, et pour en faire présence, pour faire une présence en lui. Si Jésus se donne dans quelques instants comme pain de vie, c'est pour que l'amour infini de Dieu nous devienne accessible, jusque dans les détails les plus concrets de notre histoire, de notre quotidien, de notre chair. C'est le pain de vie, je le comparerais à une sorte de transformateur, un transformateur qui change nos vies en la sienne. Où nous pouvons goûter déjà à l'amour infini du Père à travers des gestes tout simples. Notre petite histoire toute simple qui m'a beaucoup encouragé, c'est un homme médecin à l'âge de 70 ans, qui était toujours très actif, qui se donnait beaucoup, beaucoup pour les autres, très généreux, et qui, à la suite d'un arrêt cardiaque, a été paralysé de tout son côté gauche, donc quasiment impossible de se déplacer, grande épreuve. Et cet homme chrétien a décidé dans son cœur de redoubler d'amour et d'attention pour ses proches. Il a essayé de ne pas se plaindre. Il multipliait des sourires. Il s'inquiétait plus de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants, plus que de son propre état. Et de temps en temps, il embrassait ses amis en leur disant tout son amour pour eux et pour Jésus. Vous voyez, cet homme est allé jusqu'au bout. Il est devenu pain de vie. Il reflète quelque part cet amour infini à travers une maladie, à travers une épreuve. Alors ce qui nous manque le plus, et j'aime bien cette autre histoire, ce qui nous manque le plus, et nous le savons, et ce temps de vacances peut être un temps favorable pour demander au Seigneur une plus grande confiance en sa présence jusque dans notre pauvreté. Vous savez, j'avais déjà raconté cette image du papa là qui a un fils. On peut faire l'expérience dans vos familles, hein, qui a un fils de 3 ans. Et alors il le met sur un mur, je sais pas, de 2 mètres, pas trop quand même, et qui lui tend les bras. C'est très beau ce geste du père qui tend les bras et qui demande à l'enfant de sauter dans ses bras. Viens, saute dans mes bras. Hein. L'Eucharistie, c'est viens. Vient dans mon cœur. Et le petit Jérémy n'hésite pas, vous savez, les enfants, c'est ça, à cet âge-là, pas une seconde, et en criant spontanément, encore, 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 je veux, c'est superbe, ça me plaît bien, j'ai la joie immense du papa et de l'enfant, et si papa ne se fatiguait pas, ça durait toute l'après-midi et toute la soirée. C'est pas vrai, les enfants, c'est à ce sens-là, il y a une spontanéité incroyable. On va mettre ce même Jérémy sur le même mur, 2 mètres de haut, à 10 ans. Il va dire à son papa, « T'es sûr, papa? Tu es assez costaud? Est-ce que tu vas arriver à m'attraper? » À 13 ans, « T'es sûr que c'est vraiment drôle, papa? » À 15 ans, « Ah non. Est-ce que tu m'as vu, moi? Est-ce que tu m'as bien regardé? Je ne veux plus jouer à ça. » Vous voyez, comme la confiance, souvent, elle baisse avec le temps. Alors, dans la vie spirituelle, nous avons à revenir à cette confiance de l'enfant. C'est ce que nous allons demander à travers cette Eucharistie, que nous sachions rajeunir notre confiance en ce Père éternel qui se donne à travers le pain de vie à chacune de nos Eucharisties. Nous sachions entrer dans cette filiation divine. Demandons à la Vierge qui s'est nourrie toute sa vie de ce pain de vie et qui aujourd'hui est au cœur même de la Trinité, celle qui est notre mère. Demandons-lui qu'elle nous transforme en ce corps très saint du Christ en gloire.